Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune en visite d'État en France en mai prochain, une visite convenue lors d'un entretien téléphonique avec Emmanuel Macron. Un enlèvement de masse au Burkina Faso, une cinquantaine de femmes ont été enlevées jeudi et vendredi dernier. Un homme a été arrêté après une fusillade samedi devant une église à Londres, il a été placé en détention. Plusieurs organisations d'étudiants comme la FAGE et l'UNEF se mobilisent contre la réforme des retraites et participeront à la journée de mobilisation jeudi prochain. Dans votre journal, Maëlle Nizan, vice-présidente en charge des enjeux de société à la FAGE. Regard dans votre édition sur la situation dans les hôpitaux en France. Christophe Prudhomme, médecin urgentiste au SAMU 93, conseiller régional d'Île-de-France apparenté à la France Insoumise, réagira aux annonces d'Emmanuel Macron sur la santé. L'invité de la bibliothèque de Radio Orient hier soir était Yann Kerlo pour Léon Battista Alberti, le magicien de la Renaissance aux éditions Albin Michel, extrait dans votre journal. Le président algérien se rendra en France en mai prochain pour une visite d'État, c'est ce qu'indique la présidence algérienne dans un entretien avec l'écrivain algérien Kamel Daoud, publié le 11 janvier dernier par l'hebdomadaire Le Point. Emmanuel Macron avait dit espérer accueillir Abdelmadjid Tebboune en France en 2023, cela pour poursuivre le travail de mémoire et de réconciliation entre les deux pays. À la fin de l'année dernière, le président algérien avait salué la nouvelle relation de confiance, avait-il dit, entre la France et l'Algérie, une déclaration 4 mois après la visite à Alger d'Emmanuel Macron. Un enlèvement de masse au Burkina Faso. Une cinquantaine de femmes ont été enlevées les 12 et 13 janvier dernier, jeudi et vendredi dernier. C'est arrivé dans le nord du pays. Cette région est confrontée depuis 2015 aux attaques de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. Il s'estime déjà suffisamment touché par la précarité. Plusieurs organisations d'étudiants comme la FAGE et l'UNEF se mobilisent contre le projet de report de l'âge de départ à la retraite. Ils participeront à la journée de mobilisation jeudi prochain. Maëlle Nizan, vice-présidente en charge des enjeux de société à la FAGE.
La FAGE appelle à se mobiliser le 19 janvier aux côtés de l'intersyndicale, tout simplement pour s'opposer au recul de l'âge légal de départ à la retraite, qui pour nous, cette réforme de retraite pour nous, elle est juste dans la précarité. Elle va reposer uniquement sur les plus précaires, c'est les plus précaires qui vont la financer. Nous, pour ça, c'est tout simplement pas possible. Donc c'est sur cette mesure principale que nous, on est fondamentalement opposés au recul de l'âge légal de départ à la retraite. C'est un constat très simple, c'est que les plus précaires ont une espérance de vie qui est bien moindre, cette réforme elle va impacter principalement ce public-là, et nous, en termes de réflexion sur cette réforme, c'est pas envisageable. C'est pour ça qu'on a fait la démarche d'appel à la mobilisation le 19 janvier, tout simplement.
Avec l'ensemble des organisations syndicales, dont les organisations étudiantes, il y aura une mobilisation intersyndicale étudiante.
Oui, alors c'est dans l'intersyndicale de façon plus globale, avec la CGT, la CFDT, les 8 syndicats pro qu'on a appelé à se mobiliser. Il y avait aussi des organisations de jeunesse qui prenaient part. Et nous, du coup, on était directement liés à tout ça. Tout simplement parce que la jeunesse est aussi directement impactée par cette réforme des retraites. On est dans un climat où c'est quand même, la jeunesse est très précarisée. Il y a aussi des incertitudes sur tout ce qui est insertion professionnelle. Et cette réforme des retraites, elle vient ajouter à tout ça une autre source d'anxiété. Qui touche du coup directement notre jeunesse que nous on représente.
Et justement, lorsque vous discutez avec d'autres étudiants, qu'est-ce qui revient le plus fréquemment dans leurs propos, dans leurs inquiétudes ?
Cette réforme de la retraite, pour les étudiants, ça va être un peu lointain. Simplement, c'est un élément en plus qui vient s'ajouter à toute l'anxiété que peuvent ressentir les jeunes. Je parlais de l'anxiété de façon générale. On a l'anxiété par rapport au climat, par rapport au futur que la jeunesse elle va avoir. Il y a toute l'anxiété par rapport aux difficultés d'insertion professionnelle que ressentent les jeunes. Et après, il y a aussi toute la question de la précarité que vivent les étudiants au quotidien. La précarité étudiante qui est grandissante, ça a été largement mis en lumière, notamment sur les 2 dernières années avec la crise sanitaire. C'est un problème qui est plus général et plus global. Et du coup, la réforme des retraites et ce côté de précarisation, ça ajoute en fait une raison de plus sur cette anxiété et sur le dos des jeunes. Et du coup, c'est comme ça qu'ils le vivent. C'est un élément encore supplémentaire qui s'ajoute à tout ça et à ce climat d'anxiété en fait.
Cette mobilisation le 19 janvier prochain, cela va se traduire comment pour vous? Par une grève également?
Nous, les étudiants, on va tout simplement, aller se mobiliser aux côtés de l'intersyndicale, aux côtés des autres organisations, que ce soit organisations syndicales professionnelles ou organisations de jeunesse. L'objectif, c'est vraiment de faire un front commun pour s'opposer à cette réforme. On a appelé les jeunes dans notre communiqué de presse à se mobiliser massivement, à aller dans la rue sur ce sujet-là pour pouvoir montrer leur mécontentement, leur désaccord avec la politique qui est menée en fait.
Et vous pourriez organiser d'autres actions suite à cette mobilisation du 19 janvier, comme des blocages par exemple ?
Alors ça, c'est pas la ligne première qu'on souhaite aborder. Après, faut voir comment tout ça va évoluer, faut voir aussi la prise en question qui va être faite de la part du gouvernement. Après, nous, c'est pas notre premier levier d'action, les blocages, parce que pour nous, l'objectif, c'est quand même de permettre aux étudiants de pouvoir étudier. Mais nous, sur le sujet, c'est juste qu'il faut que la jeunesse puisse se faire entendre sa voix de la meilleure manière possible. Donc nous, après, on est aussi une organisation qui se base sur ce qui va nous être, sur ce que les jeunes veulent, parce qu'on a un modèle démocratique où c'est justement nos associations qui étudiants des différents territoires qui font aussi part de leur avis, de leur mécontentement, etc. Et l'idée, c'est aussi de se baser sur vraiment ce que les étudiants veulent et comment ils veulent réussir à montrer leur opposition à cette réforme.
Maëlle Nizan, vous êtes la vice-présidente en charge des enjeux de société à la FAGE. Est-ce que vous pouvez nous faire part des principaux défis de cette année qui vient de démarrer pour les étudiants, comme notamment la réforme des bourses ?
La réforme des bourses, nous, c'est un sujet majeur cette année. Ça fait des années qu'on demande une réforme des bourses parce qu'on voit bien que le système de bourses ne répond pas tout simplement aux besoins des étudiants, et on demande qu'il soit revu et qu'il y ait une réforme qui soit vraiment systémique, parce qu'actuellement, c'est pas possible pour un étudiant de suivre ses études décemment, tout simplement. Donc nous, ça reste notre sujet majeur et central cette année, c'est un enjeu. On sait qu'on va avoir normalement des annonces, j'espère, des avancées sur ce sujet. Après, ce qu'on demande, ça fait des années que la précarité étudiante est mise en avant, donc ce qu'on demande, c'est que les besoins de chaque étudiant soient pris en considération et que chaque étudiant puisse tout simplement vivre dans des conditions décentes et suivre ses études, parce que être étudiant, c'est pas ne rien faire au quotidien, c'est suivre ses études pour au final plus tard pouvoir travailler et pouvoir apporter aussi à la société. Et juste actuellement, on a des étudiants qui ne peuvent pas suivre leurs études dans des conditions décentes. Donc nous, c'est vraiment notre sujet central cette année, que chaque étudiant puisse tout simplement vivre décemment.
Vous déplorez aujourd'hui une accentuation de la précarité chez les étudiants ?
Ça, on l'a vu ces dernières années. Après, il faut le dire, là, ça a été vraiment mis en lumière, comme je le disais tout à l'heure, par la crise sanitaire. Mais la précarité étudiante, elle ne date pas d'hier. Et ça fait des années que la FAGE se positionne pour une réforme systémique du système d'aide sociale étudiant. Et là, on a vraiment besoin que celle-ci, elle arrive. Cette mise en lumière-là, ça a montré que la précarité, oui, elle a été accentuée, parce qu'il y avait aussi l'isolement social. Enfin, il y a eu plein d'autres facteurs qui sont liés à tout ça avec la crise sanitaire. Mais les étudiants, à côté de ça, ça fait des années qu'ils vivent dans cette situation-là, et ça fait des années que nous, on demande qu'on ait une réponse concrète à cette précarité étudiante.
L'un des changements de cette année concerne les futurs étudiants en master, avec une plateforme unique de candidature.
Ça, du coup, sur ce sujet-là, nous, on sait qu'il y a un besoin de réformer la façon dont se passent les candidatures master, parce qu'actuellement, les étudiants, c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'ils doivent faire une candidature différente pour chaque master, refaire leur dossier depuis le début pour chaque candidature. Donc nous, on sait qu'il y a un besoin et que c'est un vrai enjeu cette année aussi sur le côté académique, cette plateforme master. Après, on attend vraiment les modalités, parce que l'idée, c'est pas que ce soit une plateforme qui accentue non plus la sélection, parce que nous, c'est vraiment pas notre sujet. Le but, c'est juste de faciliter pour les étudiants ces candidatures-là et l'accès au master.
La ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé que tous les étudiants seront formés à la transition écologique d'ici 2025. Comment est-ce que vous avez accueilli cette annonce et cette mesure ?
Alors nous, c'est vraiment une mesure qu'on a accueillie. Enfin, c'était une demande qu'on avait également. Donc on l'a accueillie on était très heureux de cette annonce. Après, il faut voir comment ça va se faire dans les faits. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a... sur lequel on était heureux que ce soit enfin pris en considération, parce que ça faisait des années qu'on le demandait. Nous, on avait posé les mots au CNESER, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, que justement, il y avait une nécessité de prendre enfin cet enjeu en considération, cet enjeu qui est majeur. Donc nous, on est heureux que ce soit enfin fait. Après, il faut encore voir les modalités dans lesquelles ça va être fait, les moyens qui vont être mis en place concrètement. Mais dans l'idée, nous, on est heureux que ce soit enfin un sujet dont on puisse se saisir.
Vous êtes responsable associative, vous avez le sentiment que ce sujet est largement porté aujourd'hui par la jeunesse ?
Oui, bien sûr, c'est une des préoccupations centrales de la jeunesse. Nous, c'est quelque chose qui est ressorti dans l'enquête qu'on avait fait, l'enquête FAGE Ipsos, sur justement les préoccupations de la jeunesse qu'on avait fait l'année dernière à l'occasion des élections présidentielles. Oui, c'est un sujet central pour la jeunesse, je parlais tout à l'heure d'anxiété. Les jeunes, ils ont du mal à se projeter aujourd'hui dans un futur, tout simplement parce que on le voit, les dégâts autour de nous aujourd'hui du dérèglement climatique et de toutes ces questions-là. Et du coup, les jeunes, ils sont très demandeurs justement qu'on puisse les former, qu'on puisse se saisir beaucoup plus de cette thématique. Donc je pense que globalement, c'est une mesure qui va être bien accueillie par les jeunes, et ils en attendent beaucoup.
Et pour revenir sur cette réforme des retraites, vous nous dites que cela renforce votre anxiété concernant justement votre projection dans le futur.
Oui, exactement. La réforme des retraites, Je pense que je ne vais pas revenir sur les différentes mesures qui ont été annoncées, mais on voit bien que c'est quelque chose qui fait encore peser le poids de cette réforme sur principalement les plus précaires. Les jeunes, aujourd'hui, c'est encore une pièce de plus sur le puzzle qui montre que on va dans une société qui est de plus en plus précarisante de façon globale et du coup qui fait augmenter l'anxiété des jeunes pour se projeter dans leur futur de façon sereine.
Maëlle Nizan, vice-présidente en charge des enjeux de société à la FAGE. Le nombre d'entrées irrégulières dans l'Union européenne en 2022 était au plus haut depuis 2016. Elles ont augmenté de 64% par rapport à 2021. L'Agence européenne de surveillance des frontières, Frontex, souligne que 45% des entrées irrégulières ont été enregistrées sur la route des Balkans occidentaux. Un homme a été arrêté après une fusillade samedi dernier devant une église à Londres. Il a été placé en détention. Cette fusillade a fait 6 blessés. Une fillette de 7 ans est toujours hospitalisée dans un état grave mais stable. Les coups de feu ont été tirés à l'extérieur de l'église après une messe en hommage à une mère et une fille décédées en novembre. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a qualifié la fusillade de profondément angoissante. Il n'y a plus d'espoir de retrouver des survivants après l'accident d'un avion au Népal. 72 personnes étaient à bord de l'appareil qui s'est écrasé hier. 4 personnes restent portées disparues. Les autorités ont décrété un jour de deuil national ce lundi. Des heures en marge d'un match de football à Kouribga, au Maroc. 18 supporters ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'être impliqués dans des jets de pierre et autres violences. Violences qui ont fait 12 blessés parmi les forces de l'ordre. L'invité de Pluriel le week-end dernier était Christophe Prudhomme, médecin urgentiste au SAMU 93, conseiller régional d'Île-de-France, apparenté à la France insoumise. Il a notamment réagi aux annonces d'Emmanuel Macron sur la santé. Christophe Prudhomme.
On peut dire que oui, il a donné quelques éléments de diagnostic, mais ce qui nous intéresse, ce n'est pas le diagnostic, c'est le traitement. Et au regard de la gravité de la situation, les mesures qu'il nous a proposées comme traitement sont des mesures qui, pour la plupart, étaient déjà connues, ont montré leur faible efficacité par rapport aux enjeux actuels et à la gravité de la situation. Et donc, je peux vous dire que la réaction autour de moi, c'est que ça a renforcé la colère des personnels soignants parce que nous ne sommes pas entendus. Nous avons fait des propositions très précises, nous étions déjà dans la rue en 2019. Écoutez, il y avait 3 revendications en 2019. Un plan de formation et d'embauche de 100 000 personnes à l'hôpital. Une vraie revalorisation des salaires auxquels le Ségur n'a pas répondu. Et l'arrêt des fermetures de services d'établissement et des suppressions de lits. Or là, vous voyez, je vais dans quelques jours à l'hôpital de Guingamp. C'est quand même une ville de taille moyenne. À l'hôpital de Guingamp, on va fermer la maternité et la chirurgie au mois de juin si on poursuit la politique aujourd'hui que M. Macron impulse et que M. Braun met en œuvre. Donc ce n'est pas possible. Qu'en 2019, nous étions dans la rue et on demandait un plan de formation et d'embauche de personnel. Pour former une aide-soignante, il faut 1 an. Pour former une infirmière, il faut 3 ans. 2019-2022, c'est 3 ans. Voilà. Donc la question, elle est simple. Ils n'ont pas répondu à nos demandes pour une raison très simple, c'est qu'ils créent sciemment cette pénurie pour poursuivre les fermetures massives de lits. Voilà, pour tuer le service public et que la seule alternative pour ceux qui pourront se la payer, ce soit les cliniques privées, où il faut aller avec sa carte vitale et sa carte bleue. C'est ça la logique de M. Macron. M. Macron poursuit une politique libérale de casse du service public qui va nous mener à un système à l'américaine. On le voit. Il essaye de sauver Orpea dans les EHPAD, qui est un véritable scandale, plutôt que les mettre sous tutelle et de leur faire faillite et de récupérer les établissements. On continue à bricoler avec l'hôpital public des cliniques privées qui sont dans les mains de grands groupes internationaux qui investissent en France pour avoir le meilleur retour sur investissement pour les dividendes de leurs actionnaires. Et moi, je souhaiterais qu'il y ait un référendum avec une question. Est-ce que la santé doit relever exclusivement du secteur public et qu'on en exclut toutes les activités marchandes? Je pense qu'on gagnerait le référendum, et là on pourrait reconstruire quelque chose de sérieux, tant sur la question de l'offre de soins, de l'organisation du système, que de son financement, parce que vous savez qu'entre la sécurité sociale, les complémentaires et les surcomplémentaires, nous avons les coûts de gestion du système qui sont les plus élevés au monde après les États-Unis. Voilà. Et l'argent, il va bien dans les poches de quelqu'un, il va dans les poches des compagnies d'assurance, qui aujourd'hui sont majoritaires sur l'offre de l'assurance maladie complémentaire. Les mutuelles sont en train de perdre le marché. Voilà, donc il y a un moment donné, il faudra bien qu'on vienne sur des questions politiques fondamentales. et qu'on arrête de détruire les services publics. Vous savez, on a la même destruction d'un autre grand service public qui continue à mobiliser principalement des fonds publics, qu'est l'éducation.
Christophe Prudhomme, médecin urgentiste au SAMU 93, conseiller régional d'Île-de-France apparenté à LFI. Il était l'invité de Pluriel le week-end dernier. Ce soir à 19h et 23h, Loïc Barrière recevra Paul Hatt, conseiller de Paris, élu de la société civile dans le 17e arrondissement de la capitale, rattaché au groupe Les Républicains. L'invité de la bibliothèque de Radio-Orient hier soir était Yann Kerlot pour Léon Battista Alberti, le magicien de la Renaissance aux éditions Albin Michel. Un livre qui nous fait découvrir un philosophe qui s'intéressait à tous les sujets, notamment l'architecture, l'occasion de s'intéresser aussi à la Renaissance.
Je pense, si vous voulez, qu'il faut déjà, peut-être dans l'esprit des Français et de ceux qui nous écoutent, quel que soit l'endroit dont ils viennent, peu importe, je crois que ce qu'il faut surtout dire, c'est que cette Renaissance florentine a été, contrairement à ce que nous pensons, un temps de violence, de guerre, et avec que ce soit à la curie romaine et donc au Saint-Siège vis-à-vis des papes qui devaient régner, là, cette Renaissance, il faut que nous cessions en France de la voir comme une chose un peu idyllique, parce que ça a été pendant très longtemps quelque chose de très très violent. Alors là aussi, l'origine de Léon Battista Alberti, c'est une grande famille du 12e et 13e siècle qui a été très marquée par la dynastie et la lignée des Alberti, qui étaient essentiellement banquiers, des banquiers très connus, puisqu'ils étaient très actifs, non seulement dans leur pays, bien sûr, qui était une ville ou une autre d'Italie, des villes-états, il faut pas oublier ça, c'est une notion que nous n'avons pas en France, des villes-états, nous n'en connaissons pas. Une ville-état, c'est un endroit où on peut effectivement, à tout moment, être racheté par un autre pays, c'est-à-dire que tout d'un coup, Naples va être racheté par l'Anjou, en France. Donc, si vous voulez, c'est une notion très étrange pour nous et que nous ne connaissons pas. Les trois quarts des gens ne connaissent pas ce concept. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que ensuite, les Albizi, qui étaient donc ces banquiers très importants, ils se sont intéressés aux soieries et à tout ce qu'elles peuvent représenter, mais aussi aux fourrures, aux brocarts, à la soie. Et il y a eu parmi eux, en dehors des banquiers, des gens qui ont vraiment fait le maximum pour ces étoffes afin qu'elles fussent vendues, eh bien, à des gens qui étaient capables d'être dans une cour princière ou royale et où il y avait évidemment une vie de cour très importante.
Yann Kerlot, auteur de Léon Battista Alberti, le magicien de la Renaissance aux éditions Albin Michel. Il était l'invité hier soir de la bibliothèque de Radio-Orient. Émission présentée par Loïc Barrière. Émission disponible sur votre site internet radioorient.com. Vous êtes bien sur Radio-Orient à 12h30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le flash, 17h30 pour le journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio-Orient. Il est 12h18.